Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce dernier workshop de ce Hub Forum 2016 qui va être dédié à la transformation interne, puisque c'est le thème de l'après-midi. Et notamment, on va partager le retour d'expérience de la transformation interne d'Accor Hôtel. Mais avant cela, nous allons avoir également une introduction sur les grands challenges que représente la transformation interne dans nos organisations aujourd'hui. Donc pour mener à bien ces différents sujets, j'accueille aujourd'hui Marc Sabatier.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Et Caroline Fouque du groupe Accor Hôtel. Et nous terminerons une fois leurs deux présentations par une démo qui sera réalisée par Microsoft sur l'usage... sur l'usage justement des nouvelles technologies et comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses vraiment innovantes dans son entreprise pour aider cette transformation interne et ces nouveaux modes de collaboration qui sont souvent un sujet important. Donc Marc Sabatier, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, a fondé Stirven en fait en 1996 et il est aujourd'hui le président du cabinet Juliette Stirven, qui est en fait la fusion de deux autres cabinets, qui étaient le cabinet Bernard Juliette et Stirven. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le conseil en organisation, en stratégie, en management. Et c'est aujourd'hui le premier acteur résolument engagé à la fois sur le business et le people. En effet, c'est un cabinet qui a été fondé avec la conviction que pour réussir des transformations, il faut s'axer sur deux axes. Le premier qui est la mise en place d'une stratégie et d'une organisation efficace. Et le deuxième qui est comment tirer parti de l'efficacité collective, de l'efficacité individuelle. Marc a également, depuis 10 ans, investi dans 25 startups qu'il accompagne dans leur développement. Et il est le cofondateur et le partenaire d'une pépinière que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 50 Partners, et qui est établie à Londres et à Paris. Aujourd'hui, il prend la parole donc sur les challenges de la transformation interne au sein des organisations, qu'elles soient publiques ou privées.
Merci Virginie. Alors on fait souvent la distinction entre transformation digitale externe et transformation digitale interne, qui est donc le sujet de l'après-midi. À savoir pour la transformation digitale externe, tout ce qui tourne autour de la transformation des modèles relationnels, clientèles générés par le digital, l'omni, le cross-canal, la digitalisation de la relation client et toutes ces sortes de choses, des changements de business model sous la contrainte et sous des menaces d'ubérisation ou pour avec des postures un peu plus opportunistes en utilisant le levier des technologies, et puis la transformation digitale en interne pour laquelle vous êtes tous là cet après-midi et qui touche, elle, à tous les outils coopératifs, collaboratifs, par exemple les réseaux sociaux d'entreprise, par exemple Skype for Business, par exemple les Surface Hub. Bien entendu aussi tout ce que ça tire en matière de mode de travail, de mode de management, j'en passe, parce que sinon on y passerait la journée. Mais comme toujours, les entreprises sont naturellement tirées par le développement de leur business et donc par la transformation digitale externe. Pour autant, et je crois que c'est la raison pour laquelle également vous êtes là cet après-midi, c'est une évidence pour tout le monde réussir une transformation de son business sans transformer une entreprise en interne conduit à l'échec. Voilà. Et le contraire est vrai également, c'est-à-dire qu'en travaillant bien sa transformation interne, on réussit à démultiplier le succès d'une transformation externe de son business. J'espère que vous n'avez pas tous largué à ce stade. Si j'osais justement une comparaison avec l'automobile, hein, puisqu'on est à l'époque du mondial de l'automobile, hein, en dehors de tous les événements qu'il peut y avoir en ce moment, c'est comme appuyer sur l'accélérateur ou changer de vitesse sans appuyer sur l'embrayage. On fait de la bouillie de pignon, on casse sa boîte de vitesse, on vient se garer mollement sur la bande d'arrêt d'urgence. Et puis à partir de ce moment-là, on regarde les autres voitures avancer. C'est exactement pareil pour les entreprises. Et c'est pareil aussi pour nous, d'ailleurs. Virginie nous a présenté Juliette Stirven. Donc on existe sous cette forme depuis un an. Et si on voulait continuer à être un partenaire crédible pour nos clients sur leurs projets de transformation, bien les expertises en stratégie, en transformation, que ce soit digitale ou non, de l'ex-Stirven, devait être complété par des expertises de change management, de transformation managériale, d'adoption, enfin d'expertise sur l'adoption de l'ex-Juliet. Voilà. Et réciproquement, bien entendu, chacun avait besoin de l'autre pour pouvoir avoir ce modèle business et people. Alors c'était une évidence et on se félicite tous les jours de l'avoir fait. Parce que tout simplement, chacun d'entre nous, on est un petit peu schizophrène, chacun d'entre nous sommes à la fois des clients, dont les comportements sont dictés par des nouveaux usages, les nouveaux modèles de vente et de distribution, mais on est aussi des individus qui intervenons dans des organisations, des entreprises, et donc nos destins digitaux internes et externes sont totalement liés. Quand j'observe ce qui se passe dans les entreprises, moi j'ai envie de vous parler cet après-midi de quatre enjeux majeurs. Alors il y en a bien d'autres, bien entendu, dans la transformation interne. Et ce sont quatre enjeux qui, donc, comme je le disais à l'instant, doivent être parfaitement alignés, sans quoi vous allez créer des frustrations aussi bien chez vos clients que chez vos collaborateurs. Et frustration aujourd'hui, ça veut dire zapping. Votre client partira à la concurrence. C'est tellement facile aujourd'hui d'aller à la concurrence. Les dernières barrières réglementaires qui existaient sur les télécoms, la banque et l'assurance ont sauté. Et puis zapping aussi pour vos collaborateurs, parce que eux aussi vont partir peut-être à la concurrence. Et puis vous le savez tous, ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Donc il faut quand même veiller un peu à ça. Donc le premier enjeu dont je voulais vous parler, sans qu'il y ait d'ordre d'importance, c'est l'évolution des comportements. Donc j'ai déjà eu l'occasion là, d'aborder un petit peu le sujet. Je vais faire court là-dessus parce que j'ai des brillants CMO, CDO dans la salle, qui en savent plus que quiconque sur le sujet. Mais simplement, toujours dans cette logique de parallélisme entre transformation interne et transformation externe. Un exemple, BIOD en interne est finalement un peu le miroir où répond au cross-canal et à la liberté du device que je vais utiliser dans mon expérience client. Le désalignement d'ailleurs le plus tarte à la crème, j'ai envie de dire, entre transformation interne et transformation externe, c'est l'utilisation massive des réseaux sociaux à titre privé et tout le mal, les difficultés, les freins, la prudence des entreprises qui souhaitent déployer des réseaux sociaux d'entreprise en interne. Alors on entend des choses comme évidemment, mais vous le connaissez tous très bien ces choses-là, mes collaborateurs ne sauront jamais se servir de ce truc-là. Mon directeur va crouler sous les postes insultants, revendicatifs toute la journée. Mes partenaires sociaux vont occuper le terrain avec des revendications totalement farfelues. Ben non. Non, parce qu'on oublie un peu trop souvent que les collaborateurs donc, sont des hommes et des femmes responsables, si on veut bien assumer ça. Et que s'ils avaient voulu un peu la guerre thermonucléaire dans l'entreprise, ils l'auraient faite depuis longtemps, qu'il y ait du digital ou qu'il n'y en ait pas. Voilà. Sur ce point de l'évolution des comportements, il y a quelque chose qui est intéressant à regarder toujours en termes de parallélisme, c'est l'émergence de plus en plus courante, et moi je trouve ça extrêmement positif, de notions d'employé de journée, donc qui est évidemment le miroir du customer journey. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez très bien ce que c'est, vous l'avez reconnu. À nouveau un miroir qui va dans le sens, voilà, qui est vraiment le message que je voudrais faire passer, qu'on ne doit pas déconnecter transformation digitale interne et externe. Le second enjeu, c'est la vitesse de transformation, l'accélération du temps. Je regardais récemment une étude qui a été faite sur les raisons des succès des startups. Basé sur plusieurs centaines de succès et d'échecs, tous analysés avec le même angle et sous quatre axes. Le premier axe, c'est l'idée. Le second axe, c'est la qualité de l'équipe. Le troisième axe, c'est le niveau de funding. Et le quatrième axe, c'est le time to market. Ben, curieusement, enfin en tout cas, c'est un peu une surprise, le facteur de clé de succès qui arrive très largement en premier, c'est le time to market. Devant l'idée, devant la qualité de l'équipe, et évidemment devant le niveau de funding. Ça, on pouvait s'en douter un petit peu. Et le time to market, il existe aussi en interne. Si vous ne bougez pas, vos équipes ne se bougeront pas. Si vous ne répondez pas à leurs besoins de collaboration, de fonctionnement en réseau, d'outillage, les meilleurs partiront, vous n'arriverez pas à recruter correctement, et vous pouvez faire une croix sur tous vos beaux projets digitaux pour vos clients. Alors attention, il ne faut pas confondre vitesse de transformation, comme je l'indique ici, et précipitation. Je pense qu'il y a, voilà, s'il y a un principe qui a bien survécu à la transformation digitale, c'est celui-ci. Si on ne prête pas suffisamment attention justement au troisième enjeu, celui dont je vais vous parler tout de suite, on risque une sortie de route assez violente si je reste dans le domaine de l'automobile. Ce troisième enjeu, c'est mon dada. Donc je vais vous l'infliger encore plus que les deux premiers. C'est l'individualisation de la transformation digitale. qui est vrai en interne et en externe. Autrement dit, la transformation digitale à la carte. Bon, tout le monde sera d'accord, bien sûr, pour dire que, bien entendu, il ne s'agit pas de tout digitaliser partout, de tout basculer partout immédiatement. D'accord ? Pourtant, quand on regarde bien les entreprises aujourd'hui, et je prends le risque de ressortir de cette salle remplie d'éminents CDO, CMO à la pointe du digital sur un rail avec les goudrons et les plumes, mais si on regarde bien ce qui se passe, bien, pour de bonnes raisons, toutes les entreprises mettent le paquet en matière de priorité, en matière d'investissement, en matière de réflexion, en matière de cerveau au service du digital et que du digital. Et ce qu'on voit parfois, c'est qu'on risque de cette façon-là de laisser parfois sur le côté de la route certains collaborateurs et certains clients. Et cela aurait été coupable en fait, de ne pas avoir été capable de suivre le rythme effréné que l'entreprise leur a quelque part un peu imposé. Alors, je me tire une balle dans le pied alors qu'on parle de digital, mais ces clients-là sont importants et ces collaborateurs-là sont importants. J'ai un bon copain qui est directeur général d'une banque dont je tairai le nom, qui est très installée dans nos territoires, comme on dit, et dans la ruralité, et dont l'effigie était un animal à grandes incisives, cousin d'une abastag, et qui a érigé comme principe fondateur de son plan stratégique le PPP, le pas partout pareil. Et déjà, le partout pareil, c'était difficilement audible du temps où l'ERP faisait la loi. Aujourd'hui, le partout pareil, c'est un poison. Parce que, un autre exemple, pour travailler pas mal dans des banques privées et travailler sur leur stratégie digitale, on a souvent dû composer entre la tentation de digitaliser massivement la relation client, ce qui était tout à fait pertinent pour certains segments de clientèle, et puis la nécessité de conserver des modèles relationnels qui peuvent paraître complètement archaïques aujourd'hui. Et bien, ces modèles relationnels complètement archaïques, c'était clairement la demande des clients. Alors, que dire aussi si on se projette en interne sur tous les échecs, j'en reviens à mes échecs de déploiement de réseaux sociaux internes et des usages là, qu'on veut vouloir pousser sans effort, à vouloir basculer tout le monde dans des nouveaux modes de travail sans laisser la place à la personnalisation, à l'individualisation de la transformation et sans laisser la place à un accompagnement suffisant, on va clairement dans le mur. Alors souvent, dans ce cas-là, pour se donner bonne conscience, on accuse l'outil, on accuse le manque de sponsorship, mais dans la réalité, c'est bien cette individualisation de la transformation et le manque d'accompagnement qui pêche. Alors certains ont basculé depuis longtemps, certains basculeront bientôt, certains ne basculeront que dans quelques années. Et tout l'enjeu justement, c'est justement dans cette capacité à accompagner chacun à son rythme, quitte à aider chacun à aller un petit peu plus vite que son propre rythme, mais pas imposer le rythme de la digitalisation à tout prix pour tout le monde. On vient de faire chez Julia Sterwen avec l'IFOP un baromètre là, qu'on a sorti hier sur la transformation digitale et en particulier le Digital Workplace. En fait, on en tire quelques enseignements. Il y en a un que j'ai retenu, qui est que 16% des personnes interrogées n'ont pas accès à Internet dans le cadre de leur travail. Il y a donc une fracture entre l'employé connecté et l'employé non connecté. Et ce que nous disent les employés non connectés, c'est qu'ils n'ont pas du tout envie, ni besoin, d'avoir accès à Internet à leur travail. Donc, sauf à vouloir se débarrasser de ces personnes-là, ou à assumer ou se débarrasser de ces clients hein, qui sont dans la même situation, ou bien assumer de fermer les yeux sur la situation de ces collaborateurs-là, avec tout le mal-être et le désengagement que ça peut générer. Voilà, moi je suis convaincu qu'il est urgent de poser l'individualisation de la transformation interne comme principe fondateur justement des transformations. Voilà. Quatrième et dernier enjeu dont je voulais vous parler, c'est démystifier l'innovation. Toujours en observant ce qui se passe dans les entreprises, on vise évidemment à démystifier l'innovation pour renforcer l'agilité, la culture de l'innovation, lui donner du sens, du concret en interne. Mais bien souvent, on voit encore des entreprises qui placardent dans leurs couloirs ou dans leurs ascenseurs des slogans un peu définitifs que je résumerai un peu de la façon suivante. Vas-y, innove, qu'est-ce que t'attends hein Donc on sait que ça ne se passe pas exactement comme ça, que ce n'est pas si simple, que tout changement culturel ne peut pas se décréter, qu'il doit se nourrir de concret, qu'il doit se nourrir d'expérience, qu'il doit bénéficier de conditions et d'environnements favorables, d'environnements de réussite. Voilà. Donc il y a besoin d'accompagnement du changement, il y a besoin d'un environnement de travail, il y a besoin d'être confronté au mode de fonctionnement des startups, il y a besoin de rapprocher les décisions du terrain et de créer de l'autonomie, il y a besoin d'aller chercher des méthodologies type design, design thinking, co-design, design thinking, j'en passe. La liste est longue, il faut choisir ses combats. Mais encore une fois, ça ne se décrète pas. Il faut que vous aidiez aussi vos collaborateurs, et Caroline en parlera assez largement tout à l'heure, parce qu'elle parlera de son magnifique projet chez Accor Hotel. Il faut mettre le paquet sur le workplace, sur le digital workplace, justement, parce qu'il a l'avantage d'être un peu au confluent de tas de sujets qui tournent autour de la transformation interne. Et en plus, à nos yeux, c'est vraiment un fantastique accélérateur de culture digitale en interne, puisqu'il mélange évidemment, enfin vous le savez, hein, de la technologie, plus de responsabilité, de la coopération, du management, j'en passe à nouveau. On a l'exemple que j'ai envie de donner, c'est on a pas mal travaillé sur ces sujets-là avec Generali, qui a décliner, c'est les 18 initiatives de leur plan stratégique, enfin de son plan stratégique sur 95 cellules de créativité, qui a créé des espaces de coworking, encouragé et accompagné le coworking. Et je peux vous dire que quand on passe la porte de cette entreprise, on sent une culture de l'innovation, comme quoi c'est très largement possible, et il y a vraiment un avant et un après. Voilà. Un point important à mes yeux également, comme dans toute transformation interne, pardon, la clé du casse-tête, là, vous savez, cette pièce en bois là, qu'on retire, qui démolit le casse-tête et qu'on n'arrive d'ailleurs jamais à remettre. Généralement, on donne le tout à ses enfants un peu plus tard, on leur dit amusez-vous avec ça au lieu de jouer à FIFA 16. Là. Donc avec ces casse-têtes-là, il y a une clé. La clé pour la transformation interne, c'est le manager de proximité. Pourquoi ? Parce que tout repose sur lui, c'est lui qui a le niveau de management qui est le plus en prise avec la réalité du terrain, avec les clients, avec les vrais problèmes, avec la vraie vie. Voilà, donc rien ne se passe de positif s'il n'est pas mis dans des conditions de réussite. Et qui plus est, et je reviens aux résultats, aux enseignements de notre baromètre Digital Workplace, Julia Sterwin IFOP, qui plus est, il ressort de ce baromètre que les managers sont beaucoup plus convaincus que les collaborateurs de l'enjeu de la transformation digitale. Et qu'ils y voient également un intérêt plus grand pour leur entreprise et plus grand pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut les soigner dans vos programmes d'accompagnement, parce que ce sont vos meilleurs alliés. Prenez la peine de les choyer. Dernier enseignement avant de conclure, toujours issu de notre baromètre, plus les individus sont sensibilisés à la transformation digitale, plus ils la vivent naturellement, positivement. Donc on voit aussi que le terrain est très favorable pour celui qui veut bien leverager son organisation interne et sa culture. Voilà, pour conclure et avant de passer la parole à Caroline, pour résumer tout ça, pensez sans cesse à être aligné entre vos initiatives de transformation digitale interne, initiatives de transformation digitale externe. N'attendez pas pour engager une vraie transformation culturelle au risque de freiner vos initiatives business. Pensez au rythme d'adoption de chacun. On ne traite pas un early adopteur avec les mêmes techniques qu'un réfractaire au digital. Pensez au PPP, pas partout pareil. Investissez sur l'accompagnement de vos collaborateurs dans cette transition. LCL a annoncé qu'ils investissaient plusieurs centaines de millions d'euros sur l'accompagnement des collaborateurs dans le cadre de leur transformation digitale. Moi, c'était la première fois que j'entendais une entreprise annoncer un chiffre sur ce sujet, sur les people. Et moi, je trouve ça très bien. Voilà. Je vous remercie de vos attentions.
Merci, Marc. Je vous propose de continuer. Vous aurez le temps, bien sûr, à la fin, de poser des questions à Marc, si vous le souhaitez. Vous pourrez également le voir après le workshop. Il ne va pas se sauver comme ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ensuite. Donc, on va maintenant passer la parole à Caroline. Alors, Caroline, après une expérience à l'international dans la distribution de composants électroniques, elle a intégré le Club Méditerranée en 1999, où elle a occupé plusieurs postes dans le domaine commercial. En 2006... elle devient chargée de mission pour la Direction Générale Europe. Elle gère des projets stratégiques et elle gère aussi les synergies avec le groupe Accor Hotel, qu'elle rejoindra d'ailleurs en 2008 au poste de directeur de projet de la distribution pour la Direction Générale. Elle a alors la responsabilité d'un certain nombre de projets stratégiques et en 2012, en sus de ses fonctions, elle prend la direction du changement pour la mise en place d'un nouvel outil qui était celui de la performance et de la gestion commerciale mondiale
du groupe Accor Hôtel. En 2015, dans le cadre du projet de transformation du groupe, que vous avez pu découvrir avec M. Bazin hier, si vous étiez présent lors de la plénière, Caroline prend la direction du projet d'implantation du nouveau siège parisien, Sequana, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Et depuis septembre, maintenant que ce projet est mené à bien et que c'est le projet dont Caroline va nous parler juste après, donc depuis septembre, elle a intégré une nouvelle équipe qui est nommée Disruption and Growth et qui a finalement trois responsabilités. La première, c'est d'identifier les nouvelles opportunités de croissance et de services pour le groupe. La deuxième, c'est de superviser les investissements et les acquisitions dans les activités émergentes. Et enfin, de développer des relations avec des startups pertinentes pour Accor Hôtel. Alors, Caroline, bonjour, bienvenue. On a vu hier avec Sébastien que ça bouge, en effet, depuis son arrivée chez Accor.
Alors, un espèce de raz-de-marée est arrivé il y a quelques années avec plein de changements et ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, des rachats d'entreprises. En fait, ce que Marc disait tout à l'heure, c'est que le monde n'arrête pas d'évoluer. Et Sébastien Bazin se dit, il faut constamment évoluer, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on suive cette course et il va falloir potentiellement diversifier nos offres. Donc des Uber, des Airbnb, tout ce petit monde-là débarque dans nos vies à une vitesse grand V et 3 mois après, on a tous l'appli, on s'en sert comme si on avait fait ça toute notre vie. Donc notre objectif, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'ouvrir. Donc s'ouvrir à, d'abord il y a des gros enjeux, hein, s'ouvrir aux nouvelles générations. Alors là, il a créé le Shadow Comex, c'est une bande de jeunes de moins de 35 ans qui travaillent en même temps que le Comex du groupe sur les différentes... Mais pour avoir une vision différente de ce qu'on peut penser à un âge un peu plus mûr. Mais c'est aussi des nouveaux métiers. Alors là, on vient de se lancer dans la gestion de location immobilière. Alors on va essayer de voir ce que ça peut donner avec des services hôteliers. On lance des nouvelles marques. On a lancé la semaine dernière une marque Joe & Joe. Enfin bref, il y a tout un tas de nouvelles acquisitions et de nouveaux métiers pour le groupe dans lesquels il faut s'adapter. Il y a également des nouveaux usages. Donc on a lancé un plan digital. Donc je vais aller très vite parce que ça a autre sens, pardon. Le plan digital, je pense que ça a été aussi assez médiatisé. Ça va faire plaisir à Marc, mais nous, dans notre plan digital, il y a également une partie sur les employés. Je ne vais pas reprendre tout le reste du plan digital, mais en gros, c'était comment est-ce qu'on va améliorer le parcours du client. Sébastien Bazin en a parlé hier. Voilà, moi, je vais essayer de vous parler plutôt de ce qui s'est passé il y a exactement un an, décidément, ce n'est pas dans le bon sens. À force de... Entre le plan digital et les nouvelles acquisitions et les nouvelles réflexions, on ne tenait plus. On était sur 4 sites à Paris. Donc déjà, ce n'est pas très pratique pour travailler en équipe. Donc, bon concours de circonstances, on décide de déménager. Et on s'est tout de suite dit que c'était une opportunité pour accélérer le changement interne dans l'entreprise. Faire évoluer les gens et les faire évoluer dans leur manière de travailler pour qu'on soit plus agile et plus innovant. Donc on a commencé, moi ça m'est tombé dessus un peu comme ça, hein, j'avais jamais fait de déménagement avant, je travaillais dans le monde du digital, la distribution, etc. Donc rien à voir avec tout ça. Donc on a commencé par faire un petit peu le tour du comité de direction du groupe. Les mots qui sont ressortis étaient innovant, informel, simple. Quelque chose de vivant, de fun, avec qu'on puisse bouger un peu tout ce qui existe comme mobilier. Et voilà, donc on s'est donc un petit peu creusé la tête pour se dire comment est-ce qu'on allait prendre ce déménagement et comment est-ce qu'on allait faire évoluer cette grande maison qui était somme toute assez classique, entre guillemets. Tout d'abord, le projet a été vraiment... embrasé par Sébastien Brazin et Sven Boignet, qui est le directeur général délégué, qui ont annoncé très clairement les directions qu'on allait prendre, qui étaient donc la transparence et quelque chose de très connecté au monde. Transparence, l'objectif c'était de créer une vraie disruption dans nos méthodes de travail et à commencer par la suppression de tous les bureaux. Et il y en avait beaucoup. Donc ça, c'était une première donnée, mais on va revoir comment on a travaillé là-dessus. Et ensuite, des locaux connectés au monde, où chacun puisse collaborer facilement. Et ça, ce n'était pas gagné non plus. C'est comme on disait tout à l'heure, le Wi-Fi, on pouvait difficilement l'atteindre. Nos PC n'étaient pas forcément à jour. On avait tous des niveaux différents. Donc, l'image n'est pas très bonne, mais donc, tout le monde voulait changer. Mais quand on est arrivé à rentrer dans le dur en disant, le premier truc, ça va être, on va supprimer les bureaux. Là, tout d'un coup, ils étaient un petit peu moins volontaires. Donc, on a essayé de leur faire comprendre, en les impliquant, pour leur dire que pour être plus collaboratif, tout ne se passe pas finalement au poste de travail. Parce que quand on regarde nos journées, finalement, on passe beaucoup de temps en réunion et assez peu finalement derrière notre poste de travail. Tout ça, c'est des mètres carrés. C'est aussi un autre métier de groupe Accord, hein, c'est de savoir comment on rentabilise les mètres carrés. Maintenant, c'était comment le faire comprendre à une société qui en avait beaucoup. Donc, on a essayé de commencer à leur expliquer qu'on allait travailler complètement différemment. Et surtout, il a fallu s'attaquer parce qu'on a récupéré donc une tour, l'ancienne tour de Bouygues Télécom, qui était donc en l'état, meublée, etc., avec des bureaux, enfin bref. Pas du tout, du coup, en phase avec ce qu'on venait de nous demander. Donc, il a fallu repenser tous les aménagements de cette tour pour les rendre un peu moins classiques, un peu plus fun, et surtout en créant beaucoup d'espaces alternatifs et plus ludiques. Donc là, c'est les espaces, je vous ai mis des photos pour essayer de l'imager un peu. Là, on a des espaces vraiment bureaux. Et quand je dis espace bureau, c'est tout le monde est sur les mêmes espaces. Les membres du comité exécutif, le PDG, il a une table un peu différente, mais il partage aussi son espace. Donc tout le monde est absolument ouvert. Et après, c'est une multitude de salles, donc je vais vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est une salle de créa qui est pour 20 ou 30 personnes. Tous les murs sont écritoires, etc. Donc tout est modulable. Alors, pour tout est modulable, etc., mais il faut quand même pour autant que... Quand on a l'habitude de faire un conf call dans son bureau, quand on a l'habitude de répondre au téléphone et de parler bien fort, quand on est 30 sur un open space, ça casse les pieds à tout le monde. Donc en fait, on a créé une multitude de petits box de deux personnes comme cela, avec des types complètement différents, de une ou deux personnes, ce qui fait qu'on veut faire un one-to-one, hop, on rentre dans une salle, on veut faire un conf call, on rentre dans une salle. Donc il y a des petits de deux, et une multitude de box qui vont de 3 à 6 personnes. Toutes ces salles sont équipées, on peut écrire chaque fois sur les murs, il y a des écrans se connectent sans fil, des pieuvres, des téléphones, tout ça sans fil. Ça fait partie aussi du change qu'on va voir tout à l'heure. Mais on s'est aperçu que les jeunes geeks du monde du digital se réunissaient pas forcément de la même manière que le même jeune, mais qui était juriste ou comptable. On s'est dit, mais en fait, finalement, comment ils ont envie de travailler ? Mes 1600 cocos à déménager. Donc, on a organisé des workshops avec que des volontaires. Et donc, ils se sont réunis plusieurs fois. Et en fait, ce qui est ressorti de ces petits workshops, qui étaient assez fun, c'était de... Ils voulaient être connectés, pouvoir écrire sur les murs et pouvoir moduler le mobilier. Donc on a pris le designer et on a créé 4 types de salles. Donc soit des salles créativité, soit des salles projet. Alors tout se bouge, les tables se lèvent, se baissent, tout est complètement modulaire. Et à chaque étage, donc il y a 3 salles de ce type. Et chaque équipe a choisi sa salle. Alors, les équipes e-commerce, ils sont plutôt partis sur des trucs un peu plus déjantés. Enfin, c'est assez marrant. Donc, il y a de toute façon 2 étages de salles classiques, comme on a vu tout à l'heure, qui vont de 9 à 30, donc de 10 à 30. Et après, à chaque étage, vous avez des salles un peu plus amusantes. Et à chaque étage, il y a, dans ces salles-là, une surface web, ce qui fait qu'il y en a une par étage. On est quand même pas mal connectés aux différents bureaux que nous avons dans tous les pays ou avec les hôtels à l'autre bout du monde. Voilà, les salles, il y en a, quand il y avait des grandes salles, on a essayé de les transformer avec des trucs un peu ludiques qui s'ouvrent, des espèces de bancs qui se modulent, on les met un peu comme on veut, etc. Bon, bref, l'objectif, c'était quand même de s'amuser et que les gens puissent penser un petit peu différemment. Ensuite, on s'est dit, je ne sais pas si vous avez vu les bureaux tout à l'heure, donc c'est quand même un petit peu resserré. Au passage, c'est les équipes qui ont dessiné comment ils voulaient implanter leur bureau. On leur a dit, voilà, grosso modo, il y a à peu près, j'ai plus les chiffres, mais 30 ou 40 places par espace, mais si vous voulez en mettre moins de ce côté, faire deux bureaux là, ou une rangée de 6 ou de 4, selon votre organisation, mais dans un espace défini, c'est eux qui l'ont fait en fonction de leurs organisations. Ce qui a bien aidé à l'adoption et à se sentir intégré au projet. Ensuite, on s'est dit, il n'y a pas que des réunions dans des salles, même des salles qui bougent un peu. Et donc, on a utilisé les espaces où il y a des vues absolument magnifiques, c'est-à-dire les deux extrémités de la tour est ovale. Donc, les deux extrémités, une qui voit vers la Défense, une vers ici, les Moulineaux. On a appelé ça les espaces travaillés autrement. Alors c'est des espaces un peu loufoques, il y a des trucs où alors là on est à peu près allongé, on peut se réunir, et ils sont tous différents. Hein. Donc ça va être des tables hautes, des trucs, des espèces de meubles où on peut téléphoner avec des barres pour ne pas gêner les voisins, etc. Donc pour que les équipes soient plus dans l'échange, au lieu d'envoyer un mail, ben on va se retrouver 5 minutes là, c'est très facile, c'est au bout des espaces de travail. Donc ça facilite considérablement le dialogue, il y a beaucoup de canapés. Je peux vous dire que c'est assez étonnant le nombre de réunions qui finalement ou d'échanges qui se font là à la place d'échanges en email. Ensuite, une tour, c'est pas très facile et ça peut couper la communication entre les équipes. Donc on a décidé de refaire des petits workshops puisque ça marchait bien. Donc on a refait des workshops avec des volontaires pour leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour leur moment de pause. Après les workshops, les idées, les couleurs, les mobiliers, etc., il en est ressorti qu'ils avaient envie de se sentir comme à la maison, dans une maison de campagne. Alors, maison de campagne, maison à la montagne et maison au bord de la mer. Donc, on a dessiné des salles de maison de vacances. Et donc, à chaque étage, alors soit on est au bord de la mer avec un seau, soit on est... là, je vous ai mis un exemple, là, c'est un... À la montagne, donc c'est plutôt des trucs en bois, des gros canapés, ça. Et cette directive qu'ils nous avaient donnée nous a servi également pour briefer les partenaires qui nous s'occupent de la restauration dans la tour, où du coup ils ont fait des espaces très ludiques avec des tables de ping-pong, des baby-foot, il y a un certain nombre de jeux, il y a des espaces quand même assez fun. Et des espaces de restauration qui également, d'abord, sont très différents les uns les autres. Il y a quatre différentes formules. Et ces espaces peuvent également être utilisés si on veut se réunir. En dehors des horaires, des repas, ça peut être aussi des grandes capacités. Un dernier endroit d'espace qui a été créé, c'est un restaurant qui est au dernier étage de la tour et qui lui donc peut aussi accueillir des gens extérieurs à la tour, donc c'est aussi un showcase pour le groupe où on a quand même un certain nombre de restaurants dans nos hôtels, un certain nombre de chefs, donc là c'est un lieu quand même assez sympa qui domine tout Paris, qui domine Microsoft.
Mais c'est normal, je sais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos clients. Alors tu nous parlais d'ailleurs tout à l'heure de deux axes. Ouais. Qui correspondent vraiment aux deux axes voulus par Sébastien pour l'ensemble de sa transformation. Le premier, c'était donc transparence, on l'a vu, et le deuxième, c'était connecter au monde. Alors justement, dans ce cadre-là, comment est-ce que vous avez finalement réussi à connecter tout le monde au monde ?
On s'est dit, il faut y aller. Si on ne le fait pas là, il va falloir attendre encore 10 ans. Je vous rappelle, 6 mois. Donc c'était quand même un beau challenge pour nos amis de l'informatique, parce qu'en 6 mois, il fallait faire 43 000 m² de travaux. Tout relooker, faire évoluer les mentalités, faire en sorte que nos ordinateurs soient à jour, faire un vrai gap technologique dans l'utilisation de tous nos outils. Donc vous avez vu dans les salles, elles sont toutes équipées avec des écrans, des gros écrans, des Surface Hub, des pieuvres, des téléphones, des machins, enfin il y en a partout. Des dalles de réservation pour réserver, une appli qui est dédiée où on peut réserver automatiquement, c'est en lien avec Outlook. Ça s'affiche directement devant la salle, en rouge, elle est occupée. Enfin bref, tout ça, ça s'est fait de manière assez rapide, ça a été assez violent pour l'informatique. Le téléphone aussi a disparu, ou est en cours de vraie disparition, et a été intégré dans Skype. Donc on téléphone maintenant, parce que si on est mobile, si on est nomade et qu'on va travailler autrement dans un canapé ou à l'autre bout, ben, je veux quand même pouvoir passer mon appel. Ben, c'est encore plus facile pour ceux qui n'ont pas de téléphone d'entreprise, de le faire grâce à Skype et à Avaya. On a installé des grands murs, là, comme Digito, qui est dans une cafette, où il y a en même temps tous les réseaux sociaux du groupe qui défilent, où les gens peuvent mettre leurs commentaires et en live, tout ça arrive là-dessus. Et la dernière évolution aussi, c'était en termes d'imprimante, c'est pareil, avant, dans son bureau, chacun avait son petit bout d'imprimante. Là, il n'y a plus beaucoup d'imprimantes, il y en a une de chaque côté, et en badge. Et donc, on peut imprimer n'importe où dans la tour, ce qui est assez pratique, parce que qu'on soit en réunion au 22e ou au 3e, on peut imprimer n'importe où. Donc ça a été une belle évolution, mais une fois qu'on commençait à l'installer partout et à faire visiter à nos différents collaborateurs, on s'est assez vite rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas complètement dedans. Mais ils n'avaient pas encore tout bien compris.
Et oui, parce qu'on est quand même sur de l'humain, donc ce n'est pas si simple que ça, les changements. C'est bien, là, les outils sont superbes, le bâtiment est magnifique, mais c'est de l'humain. Donc comment on gère le changement, justement ?
En fait, il faudrait mettre le dernier en premier, pour beaucoup de fun. Parce que je pense que quand on démystifie et quand on déstresse un peu les gens, l'adoption se fait beaucoup plus facilement. Alors, on a énormément communiqué. On a utilisé absolument tous les canaux qui étaient mis à notre disposition. Donc, ça allait des flash infos, des réunions avec les managers, les mid managers, des ambassadeurs qui sont venus volontairement nous dire ben, c'est bien, vous voyez les grands chefs, les moyens chefs, mais nous on peut aussi, on est au milieu des équipes et on peut aussi vous aider à expliquer, à montrer, à faire comprendre les choses. Les IRP, évidemment, qui étaient impliqués dès le départ du projet.
Les représentants du personnel. Si.
Oui, pardon.
Parce qu'on ne les appelle pas partout pareil.
Nous avions un intranet dédié. Et en fait, le groupe avait lancé Yammer au niveau mondial dans la société. Et nous avons créé un groupe Yammer. Et il faut avouer que ça a été un booster phénoménal en termes de communication et d'échange avec les collaborateurs. Parce qu'on s'est retrouvé à avoir la plus grosse population, y compris les gens qui n'étaient pas du tout concernés par le déménagement, qui donnaient des idées, qui partageaient, qui posaient leurs questions. Donc ça a été... un peu de stress au départ, parce qu'on se disait, est-ce qu'ils ne vont pas arrêter de nous poser des questions? On n'a que 6 mois pour faire le projet. Mais ça a été un vecteur de communication absolument génial. On a fait des mock-ups aussi pour les mettre en situation, leur montrer concrètement, physiquement, à quoi allait ressembler leur bureau. On en a fait sur notre ancien siège et sur le nouveau, essentiellement avec les managers, pour qu'ils puissent se rendre compte déjà de comment ils allaient pouvoir installer leur bureau et le faire eux-mêmes. On a impliqué les collaborateurs, c'est eux qui ont voté, par exemple, pour choisir les chaises de bureau. Pendant le mock-up qui avait lieu dans notre ancien siège, on avait mis, il restait 5 ou 6 chaises dans le choix final. Ils ont voté en ligne. Voilà. On a donc suivi leurs recommandations. On avait assez régulièrement des baromètres avec la météo pour leur demander leurs avis et leurs commentaires. Ce qui nous donnait un peu une idée de à quel moment il fallait qu'on pousse, est-ce qu'il fallait refaire des événements, un peu plus de communication. Donc voilà, donc ça c'est le côté communication. Ensuite il y a eu pas mal de co-création, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ils ont été très impliqués, les dessins des salles de pause, etc. Ils ont également, on a fait des concours internes pour choisir les noms des salles de réunion. Ils ont fait aussi des web séries, des caméras café, qui a aussi poussé Yammer à exploser. Que des volontaires, ils ont décidé de traiter eux-mêmes les sujets pour expliquer à leurs copains comment ça allait se passer pour imprimer sans avoir l'imprimante à côté de moi, pour tous les sujets, comment je vais faire pour travailler autrement, me déplacer, téléphoner ailleurs, etc. Donc ça, c'était assez marrant parce que, et en plus, tout le monde a joué le jeu, du numéro 2 de la boîte à la femme de ménage. Donc c'est tout le monde, enfin tous les volontaires, hein, bien évidemment, ont joué eux-mêmes un rôle, vraiment devant la machine à café, en série. Donc ça, c'était, ça a très très bien marché. Ensuite, il y a eu pas mal de choses autour de l'écologie. Le groupe Accor a un programme qui s'appelle Planète 21, qui est pas mal poussé dans nos hôtels. Et on s'est dit, finalement, c'est l'occasion rêvée de le pousser aussi au siège. C'est l'occasion, quand on déménage, de se dire qu'on ne va pas racheter des bureaux. La tour était équipée de je ne sais pas combien de milliers de bureaux, donc tout était équipé, donc pas besoin de le refaire. Plus d'imprimantes individuelles, sous-entendu, on imprime moins. On a poussé un peu plus loin, on a supprimé les poubelles individuelles également. On imprime moins, donc on jette moins. Si on n'a pas de poubelle, ça nous fait suer, parce qu'il faut aller se lever pour aller à la poubelle, on imprime moins. Donc on a essayé d'accélérer les choses. Merci Virginie. Et voilà. Et après, le dernier travail qui était évidemment avec les ressources humaines, parce que ça s'accompagne. Un des principaux freins pour les collaborateurs, c'était la distance. Et donc, il fallait réfléchir à mettre un petit peu plus de home office, de coworking, parce qu'on a aussi un site à Évry, donc proposer des endroits où on peut travailler et à Évry et à Paris, avec des espaces dédiés pour eux. Développer et pousser un peu plus le BYOD pour que tout le monde puisse utiliser son propre téléphone. Et voilà. Et puis, toujours pareil, du fun. Et c'est là que Microsoft est apparu. Parce que quand on s'est rendu compte que personne ne savait, enfin, assez peu de gens ne savaient utiliser, je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs, les OneNote, les Yammer, les OneDrive, etc., on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc nous sommes allés voir nos nouveaux voisins pour essayer d'organiser différents types d'accompagnement. Donc on a créé des documents extrêmement ludiques et très faciles, vraiment en trois bullet points, à quoi ça sert et comment je le fais. Ensuite, au moment du déménagement, on a organisé dans les espaces travailler autrement, là par exemple, on avait des desks et les gens venaient poser leurs questions, on avait pas mal communiqué avant, et Microsoft et les gens de chez Accor et l'informatique, notre helpdesk, répondaient en live aux questions, quitte à leur paramétrer ou à leur ouvrir les usages. Et puis un peu plus tard, une fois que les 1600 personnes avaient déménagé, on a réexpliqué un peu plus ces nouvelles choses en plénière.
Ça fait maintenant 4 mois que vous êtes nos nouveaux voisins. Quel premier bilan on peut tirer à ce stade, même si en effet l'histoire finalement ne fait que commencer?
Alors même si c'est un petit peu loin pour quelques collaborateurs, bon, ça c'est la vie, une entreprise qui bouge, c'est comme ça. Le bilan est extrêmement positif parce que les gens aiment beaucoup ce nouvel environnement. C'est quand même très ludique, on a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et il faut les garder, il faut les faire venir, donc c'est un enjeu assez important. Et c'est vrai que l'endroit s'y prête, parce que c'est quand même très très fun. On a quand même réussi donc à les bouger en 6 mois, ce qui était un exploit. Les mentalités et la manière de travailler de la majorité ont considérablement évolué. C'est assez marrant de voir les personnes qui étaient braquées, est un petit mot, quand on leur a expliqué qu'ils n'auraient plus de bureau et qu'ils ne pourraient plus téléphoner, laisser leurs documents, etc. Enfin, bon, en tout cas, qu'ils allaient s'organiser différemment, finalement, ils s'y retrouvent et finalement, ce n'est pas si mal. Donc, voilà. L'utilisation des outils est en très nette amélioration. Bon, il y a encore des choses à peaufiner. Il faut le redire constamment et remontrer comment la surface humble, ce n'est pas qu'un écran pour projeter, mais ça, on va le voir dans deux minutes. Mais il y a quand même eu un phénomène assez viral de voir que... Enfin, moi, je ne travaille plus qu'avec mon portable et bah, j'ai accès à tout ce qui est sur mon ordinateur. Et quand les gens nous voient faire, bah, du coup, ils vont le faire. Et bon, ça a généré pas mal de choses. Et bon, et voilà, et au niveau humain, ressources humaines, ça a accéléré considérablement, justement ce que je vous disais il y a l'instant, tout ce qui est travail à domicile, parce que entre autres parce que les documents sont accessibles à distance. Toutes ces choses-là qui n'étaient pas encore suffisamment déployées dans le groupe se sont bien déployées sur la fin. Et puis, voilà, et puis voilà, pour moi, c'était une expérience formidable. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Entre les travaux, l'informatique, le design, que sais-je, ça a été une expérience extrêmement enrichissante et menée avec beaucoup d'amis, voilà, beaucoup de fun.
On n'en doute pas. Merci beaucoup, Caroline. Alors, en effet, comme on vient de le voir, la transformation, c'est une histoire d'envie, de stratégie, d'organisation, etc. Mais c'est aussi beaucoup une histoire d'outils. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir en effet, avec tous ces nouveaux outils, avec Anne et Anna-Maria, donc deux chefs de produits Microsoft, comment est-ce que certains de nos clients, Accor pour une partie, mais beaucoup d'autres, aujourd'hui utilisent justement ces nouvelles technologies pour accélérer ce changement et mettre un peu plus de digital en interne dans leurs entreprises.
Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente, Anne Stoll, en charge de Surface Hub. Anna-Maria,
chef de produit Office 365.
Donc, juste pour vous expliquer un peu la genèse, on vient là d'écouter Marc et Caroline parler de la transformation, la continue du changement. Et donc, quand on parle de transformation, c'est un vaste mot. Chez nous, la transformation, en tout cas la genèse du pourquoi de ce produit. Vous savez, Microsoft n'est pas forcément... une compagnie en fait de hardware, de device, de produits en dur, plutôt de software. Mais il y a quelques années, on s'est lancé sur une gamme Surface. C'est le tout dernier né de la gamme Surface. Bon, c'est un grand bébé, un grand bébé qu'on a attendu parce que ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus. La genèse, en fait, le pourquoi du comment de ce produit, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de répondre aux enjeux aujourd'hui des entreprises. Ces enjeux sont la collaboration. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos collaborateurs collaborent mieux? Caroline illustrait bien tout à l'heure dans ses slides, dans ses explications. Et puis, surtout de la collaborer, comment est-ce qu'ils produisent mieux. On est tous dans ces problématiques-là, qui sont de bonnes problématiques. Et Surface Hub a été conçu pour répondre clairement à ces enjeux-là. Donc, on a pris les équipes de recherche et développement chez Microsoft, côté hardware, côté software. On a pris aussi des clients. On a pris des partenaires et on a réfléchi à la meilleure des solutions. Et Surface Hub est arrivé. Donc Surface Hub, c'est un device qui est équipé de Windows, mais qui est équipé également de toute la suite Office 365 pour vous apporter la meilleure des solutions, encore une fois, collaboratives sur le marché. Je m'arrête là parce que finalement, ce qu'il y a de mieux, c'est de vous faire une petite démonstration. Un peu comme ce que certainement les collaborateurs chez Accor doivent vivre au cours d'une réunion avec un Surface Hub, puisqu'effectivement ils sont désormais équipés d'un Surface Hub. Donc, Anna-Maria et moi sommes toutes les deux responsables d'une société, Van Arsdell. Cette société est spécialisée dans des sacoches qu'on fabrique pour des PC, pour des deux en un, pour des tablettes. Sacoches plutôt de luxe. On est sur une taille d'entreprise, de PME, une cinquantaine de personnes, et on est une boîte française, mais on produit évidemment nos sacoches de luxe en Italie. Bon, notre rôle, Anna-Maria est donc notre CMO.
Donc, je suis la CMO.
Voilà, et donc moi, le CEO de cette société. Donc évidemment, on a des employés, des collaborateurs qui travaillent un peu à travers le monde. Comment est-ce qu'on fait pour que tous ces collaborateurs, qui ne sont pas donc forcément basés dans les mêmes locaux, communiquent, collaborent, produisent, et pour ceux qui sont d'ailleurs à distance, continuent d'être motivés, parce que ça c'est très important. Pour toutes les personnes qui travaillent à distance, les échanges qu'on a aujourd'hui par téléphone, par mail, sont assez informels, et souvent pas vraiment participatif pour les personnes qui sont justement à distance. Allons-y, on se connecte à notre réunion hebdomadaire du mercredi avec donc notre directeur commercial qui va nous faire un petit point. Donc là, on se connecte simplement via notre réunion Skype. Et donc, on a Eric Charlinger qui est donc notre directeur commercial. Eric.
Voilà, il est là.
Est-ce que tu nous entends? Non, a priori, non.
Si, si, en fait, j'étais muté, c'est tout.
Formidable. Donc, Eric est basé aux États-Unis. Voilà. Eric, écoute, merci de te joindre à nous pour notre réunion. On a quelques points à voir sur l'agenda. Qu'est-ce qu'on se dit? Donc, point chiffre. Eric, j'espère que tu es prêt. Tous tes chiffres sont bien au clair.
Oui, bien sûr.
Et surtout, j'espère que tu nous annonces de bonnes nouvelles. Hein? Oui. OK. Voilà, ensuite, un point peut-être sur la campagne de communication. D'accord. Sur, en fait, notre nouvelle sacoche que nous lançons très prochainement, que l'on a nommée Sienna. Et puis, peut-être un point sur la production, justement, de cette sacoche.
Bah, du coup, il faut qu'on appelle Vincent.
Exact, exact. Donc, nous avons le directeur de production, lui qui est basé en Italie, forcément, qu'on va appeler, du coup, par la suite.
D'accord, peut-être parce que Vincent... Ouais, on va peut-être inverser, parce que Vincent ne pourra pas être là tout
bon
le
point.
Temps.
Bon d'accord. Point. Donc, on va prendre, effectivement, d'abord évoquer le sujet production avant d'évoquer le sujet campagne. Comme ça, on ne prendra pas trop de temps à Vincent. Ah. Donc, et puis alors, Anna-Maria, ce qui serait bien aussi, peut-être, c'est la communication interne, parce qu'il faut qu'on puisse informer toutes les équipes de ce beau projet de lancement de nouvelles sacoches Sienna. Donc, on finira par ça. Bon, super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convier Vincent. Donc, alors là, tout simplement, si je ne me trompe pas d'adresse. Donc, on peut effectivement inviter quelqu'un de manière totalement ad hoc. Merci. Donc là, on appelle Vincent. Donc, on le fait effectivement là via son adresse mail, mais on peut aussi évidemment le faire simplement en tapant un numéro de téléphone.
Salut Vincent, bonjour à tous.
Salut Vincent.
Salut Vincent.
Ça va très bien, grand beau temps à Florence.
Formidable. Ok, bon, donc Vincent, juste pour t'updater, on s'est dit qu'on allait faire un point sur les chiffres, après production, du coup là c'est ta partie, et puis après on fera un point sur plus la partie marketing, campagne, pré-order et com interne. Donc on te laissera tranquille après. On va d'abord laisser la parole, du coup, à Eric.
Parfait.
Ça vous va? Eric?
Oui.
Eh bien, écoute...
Du coup, je vais vous présenter mon bureau.
Exactement. Donc là, Eric est connecté à distance. Ils sont pour de vrai à distance. Hein. Ils sont pas cachés derrière. Bon, ils sont peut-être pas aussi loin, effectivement, que les États-Unis ou Florence. Plutôt porte-maillot, mais effectivement, voilà. Donc là, Eric va nous partager son écran. Ça, je pense que vous connaissez tous, hein, parce que finalement, on est sur du Power BI. Là, ici, on présente les chiffres sur Power BI. Et puis, bon, là, on est sur Skype. Donc, voilà, tout bêtement, partage d'écran. Donc, Eric, on t'écoute. Comment se comporte Van Arsdale?
Écoutez, je voulais vous faire un point là, sur les chiffres des ventes aux États-Unis. Donc, si on fait un focus sur nos ventes, là... sur la partie côte est des États-Unis, on voit que le mois de juin et juillet a été vraiment catastrophique. Alors, heureusement pour nous, on a une forte reprise, mais il faut qu'on fasse attention là sur le mois de novembre pour être sûr de bien closer l'année.
D'accord, ok. Donc, point d'alerte sur la côte est des États-Unis où, bon, ok, très bien, très clair. D'autres choses ?
Oui, alors je crois que Anna-Maria, tu m'avais demandé de faire un point aussi sur Natura pour voir comment ils se positionnaient par rapport à nos ventes.
Oui, je veux bien.
Écoute, c'est assez impressionnant parce que si on regarde eux de leur côté, le mois de juillet-septembre, ils ont fait une explosion au niveau de leurs ventes par rapport à nous. Donc ils sont vraiment très bien placés et il faut vraiment qu'on les surveille de près. près, ouais. La bonne nouvelle, c'est que octobre-novembre, ils sont quand même un petit peu en décroissance comme nous, mais ouais. Il ne faut pas les perdre.
Super.
Effectivement, il faudra qu'on regarde les prévisions des ventes des Natura, parce que... à vérifier. D'accord. Donc, j'allais mettre une prochaine étape pour vous.
Ok. Bon, bah, c'est très clair. Super, merci beaucoup, Eric.
Pas de souci.
Bon, donc effectivement, on a quand même un petit peu de boulot. Bon, on a de toute façon Siena, qui doit être vraiment notre produit phare là, sur la fin de l'année. Ce que je te propose du coup, Vincent, si tu es toujours là.
Ça me va très bien, si on peut effectivement jeter un petit coup d'œil sur le planning de production, parce qu'après ce que vient de dire Eric, j'aurai peut-être 2-3 modifications à apporter au niveau de la chaîne de prod.
Ok, alors laisse-moi juste aller du coup sur IOBEA. Donc, IOBEA que j'ai donc sur mon téléphone et que je partage simplement via NFC. Voilà, donc là en fait, on rejoint simplement un browser tout bêtement et je vais me connecter en fait sur IOBEA, sur lequel, qui est un éditeur en fait de digital visual, un éditeur pardon, qui fait du lead management, donc du visual digital management, et qui en fait est simplement le nouveau management en post-it, mais digital, donc forcément un peu plus pertinent quand on collabore notamment avec des gens qui sont à distance. Donc, hop, là je présume que tu es sur tout ce qui est long terme. Planning.
Exactement, ouais, okay. Dans notre salle mutualisée, si on peut juste jeter un coup d'œil là-dessus.
Oui, ça y est, on y est.
Ok, formidable. Donc juste pour faire un petit point par rapport à ce qu'on s'est dit, donc au niveau du développement, ça paraît plutôt cohérent, c'est-à-dire qu'on se garde toujours comme objectif de démarrer fin décembre sur la phase de, j'entends bien en tout cas, de R&D,
ouais.
Avec comme objectif de finir début avril. Là où je vais avoir quand même une problématique, ça va être sur le prototype, hein, 15 jours de prototypage, ça va être un peu juste. Donc ce que je vous propose, hein, je le décale en temps réel, c'est de le commencer tout début octobre,
okay.
Si ça vous convient.
Ok. Bah écoute, très bien, c'est noté. Donc on avance effectivement le prototype. Hop. Parfait, bon bah super. Donc on va se le garder et se le prendre également en note. C'est clair. Bon, on se fait un petit point maintenant sur... Bah, Vincent, du coup, on ne va pas te déranger plus longtemps.
J'ai une petite urgence sur la chaîne de production. Merci beaucoup, en tout cas, je vais vous laisser.
Merci, Vincent.
Merci, à très bientôt.
Eh ben, on va faire un point de com' interne.
Peut-être alors, faire un point sur la campagne de pré-order et tout ce qui se dit. Donc, là, en fait, on va utiliser une application qui s'appelle du coup BuzzRadar. Donc cette application BuzzRadar est une application qui vous donne en fait un peu les réseaux. C'est une espèce d'aspirateur à réseaux sociaux. Donc c'est à l'écoute en fait à un instant T de ce qui se passe sur votre marché, sur votre marque. Donc là, nous, Narzel. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir effectivement tout ce qui se dit autour de cette marque. C'est un outil du coup qui est très intéressant quand on est effectivement directeur marketing, quand on est également en agence parce que on a lancé une campagne et puis qu'on veut avoir effectivement quelques insights en live de tout ce qui se dit au travers de tous les réseaux sociaux. C'est un outil qui effectivement aujourd'hui existe notamment beaucoup sur les marchés anglo-saxons. Et un petit peu moins en France, mais ça ne saurait tarder. Ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, vous avez du coup la possibilité de voir, et ça, c'est vous qui déterminez en fait ce que vous voulez voir, des statistiques sur les dernières 24 heures de ce qui s'est dit sur Van Arsdael, comment la compétition se positionne par rapport à votre marque, et puis après, avec quelques également photos, quelques prises qui sont les principales. Donc là, on est vraiment en live. Donc là, ça peut être, par exemple, un autre exemple, c'est effectivement sur les élections. C'est aussi utilisé dans ce cadre-là pour notamment les élections américaines. Demain, ça peut être aussi sur nos élections. Donc c'est typiquement le genre d'outil qui fait sens quand on parle d'une campagne.
Pour une campagne marketing, exactement. Vous pouvez la paramétrer en fait avec les mots-clés qui vous intéressent et vous avez en fait les sentiments en temps réel de ce qui se dit en fait autour de cette campagne de votre marque.
Exactement. Donc c'est une application qui est universelle, Windows. retrouve sur du coup tout type de tout type d'outils, que ce soit sur un PC ou sur Surface Hub. Très bien.
Donc, on va parler
comme interne.
Comme interne,
Yammer, le fameux Yammer.
On va parler des Yammer, donc vous en avez déjà entendu parler effectivement par Caroline. Donc Yammer, c'est un réseau social privé donc d'entreprise qui permet de faire énormément de choses, même de faire brainstormer vos employés, récupérer des idées. Donc c'est très très important, c'est très puissant pour ça. Mais vous pouvez aussi faire de la com interne classique, top down, si vous avez des choses en fait à annoncer, sans besoin d'aller spammer tout le monde avec des mails. Et donc, notamment, ici, nous avons annoncé un preview pour nos employés, les lancements de la nouvelle sacoche Sienna. Donc, on a fait un post sur Yammer, toute l'entreprise, dans laquelle vous voyez la fameuse sacoche. Et puis, on a voulu mettre, en fait, une vidéo qui s'est jouée, du coup, en fait, sur notre portail vidéo d'entreprise, Office Vidéo. Et donc, là, on va voir Anne, qui va adresser un message à tous les employés de Van Arsdale. Avec l'audio, ça serait mieux, mais il n'y a pas...
C'est intéressant. Là, on projette en fait de mon PC, donc je pense que c'est aussi lié à ça. C'est ça qui est intéressant en fait aussi à voir. En plus d'effectivement Yammer en tant que tel, c'est que là en fait j'ai simplement projeté mon PC. Vous le voyez, j'ai pas de câble, j'ai rien du tout, c'est du Miracast. Voilà, tout simplement. Donc l'image se lance toute seule. Donc on n'entend rien. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, donc peu importe. Là, on termine notre réunion. Eric s'est mis off. Je pense qu'il est parti faire la sieste. On va finir notre réunion parce que je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Donc, en résumé, on a notre agenda. Bon, on a parsaisé tout ça, mais voilà, on a ce qu'on voulait dans le compte-rendu de notre réunion. Et d'un simple clic, on va pouvoir se partager les notes de cette réunion. Il faut être patient. Donc là, en fait, les personnes qui étaient présentes à la réunion sont, de manière naturelle, intuitive, déjà bien évidemment ajoutées. Et puis, derrière, effectivement, on peut s'envoyer les notes du meeting. On y est presque. Hop. Et juste à envoyer. Voilà. Et donc là, vous avez un fichier OneNote, une image qui s'envoie, tout simplement, ce qui vous permet, du coup, sur la prochaine réunion, de pouvoir continuer à travailler sur ce même fichier. Donc on a là définitivement l'outil collaboratif ultime qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, qui est vraiment unique en son genre. Et puis surtout, pour des raisons de confidentialité, parce que ce n'est pas son device à soi, évidemment, c'est un device de collaboration et de production qu'on peut retrouver dans des salles de réunion, dans des salles de créativité, de brainstorming. Donc d'un simple clic, on termine la réunion. Et là, en fait, tout ce que vous avez produit disparaît pour que les prochaines personnes qui enchaînent sur leur propre rendez-vous, leur propre réunion, puissent à leur tour prendre le Surface Hub et l'utiliser comme outil de collaboration. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent poser des questions, allez-y. On a un petit peu débordé, donc en effet, la plénière vient tout juste de reprendre. Ils ont repris aussi avec pas mal de retard, de toute façon. Donc, c'est tout juste de reprendre. Mais sinon, nos interlocuteurs sont à votre disposition. Merci encore à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.